Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Résonance poursuit sa route et nous marchons vers une autre région, le Pays Basque, vers une autre ville, Urugne, tout à côté de Saint-Jean-de-Luz. Ce chemin, sans que je le sache vraiment, va nous faire découvrir ce que je cherchais sans le savoir, une parole vivante ou le désir de vivre la rencontre avec l'autre, de s'aventurer dans cette expérience de l'autre, m'oblige à quitter mes propres chemins, à m'étonner, à mettre en mouvement ma pensée. Le chemin le plus court de soi à soi passe par l'autre et par l'univers, et c'est ainsi que nous accéderions à notre vérité, écrit Pierre Sansot. Alors, avançons, allons à la rencontre de Jean-Claude Henrique, surnommé Tipia, Xiomin Der de Lopetegui et Vicente Echegaray, qui vont nous inviter à cheminer, à découvrir à travers une série de deux émissions toute la richesse, le mystère aussi d'un instrument qui a une très longue histoire au sein du Pays Basque, la chalaparta. La chalaparta, c'est le son du bois qui résonne comme l'écho d'un galop de cheval au fond d'une vallée du Pays Basque. Tchakoum, 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 tchakoum. Harmonie entre deux pulsations. La chalaparta est un rythme ancien qui puise à la vieille source une inspiration toujours nouvelle. Tchakoum, 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 tchakoum. La chalaparta se composait à l'origine d'une épaisse planche assez longue, choisie pour sa sonorité et surtout sur sa capacité à vibrer. Les défauts, que ce soit les nœuds, les trous, offraient aux joueurs des zones de sonorité variées. Elle était posée à plat sur deux paniers renversés, en châtaignier tressé, quelques feuilles de maïs ou des peaux de brebis servaient de séparateur entre la planche et les paniers. Cette planche était frappée verticalement par deux joueurs, avec deux grands bâtons, makilak, chacun frappant en alternance deux coups au rythme d'un battement de cœur. Tchakoum, tchakoum, tchakoum. Alors, partageons cette aventure sonore, musicale et humaine qu'est la pratique de la chalaparta. Résonance sur Radio B, la chalaparta, ou le musicien au cœur de l'intime sonore du monde. Et là, nous venons d'entendre Uso Bidaya, ou le voyage de la palombe, une pièce écrite pour, en tout cas imaginée pour la chalaparta, puisqu'on verra qu'il ne s'agit pas d'écriture mais d'improvisation, interprétée, une improvisation là qui nous est proposée par le duo Ptikiata Aundia, constitué de Jean-Claude Henrique et de Chominder de Lopetegui. Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Urugne, entre Saint-Jean-de-Luz et Andaye, aux portes de l'Espagne. Cette petite commune a la particularité d'être située entre une corniche de hautes falaises sauvages et préservées, donnant sur l'océan Atlantique, et la chaîne des Pyrénées, qui s'abaisse doucement depuis la Rune, montagne qui culmine à 900 mètres, et qui s'affaisse doucement donc vers le Biriatou et la Bidassoa. Chominder de Lopetegui nous accueille dans un ancien restaurant. À ses côtés, Jean-Claude Henrique et Vicente Etchegaray sont trois musiciens qui vont nous faire vivre, partager leur passion, leur engagement pour la chalaparta, tout en nous faisant part également de leurs réflexions, de leurs questionnements sur les enjeux actuels et les diverses directions prises par la pratique de cet instrument traditionnel qu'est la chalaparta. Jouer la chalaparta, c'est avant tout la rencontre entre deux individus, deux singularités à travers l'improvisation. Ce que nous font vivre tout de suite Chominder de Lopetegui et Vicente Etchegaray. Résonance sur Radio B, la chalaparta, ou le musicien au cœur de l'intime sonore du monde. Et là, nous venons d'entendre à nouveau Tchakoum, 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 le galop du cheval. Et cette pièce, où elle nous a permis encore de découvrir cette sonorité de la chalaparta, cette improvisation, nous était proposée par Chominder de Lopetegui et Vicente Etchegaray.
C'est d'expliquer l'origine de la chalaparta, d'où ça vient, c'est la naissance de cet instrument.
La naissance, alors on ne connaît pas exactement les origines. Alors pour commencer, il faut dire, bon, tout ce que je voulais dire, c'est un peu mon aperçu de la chalaparta.
Bien sûr.
Tout ce que, même avec Tipia qui est ici, ce qu'il m'a enseigné, ce qu'on a expérimenté ensemble. Donc, chaque chalapartali a sa vision de l'instrument, il faut le dire. C'est assez, c'est quand même assez profond comme instrument, de comment on peut le ressentir, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui vont ressentir plus de la musique, d'autres plus une expérience un peu d'improvisation, ouais. parce que c'est ça un peu la richesse pour nous à Chalaparta, c'est qu'est-ce qui se passe sur le moment.
C'est ça.
C'est comme un jeu, une communication entre les deux
c'est
personnes.
C'est ce qu'on a senti dans ce qu'on vient d'entendre.
Voilà.
Ce rapport de l'un de l'autre et cette rencontre voilà. qui se fait, ce dialogue qui s'établit.
C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on entend une musique, donc c'est en sens, il y a de la vibration, il y a... mais bon, ça, il se passe autre chose quand même. Ça se passe plus sur qu'est-ce qui se passe entre les deux.
C'est
la relation, la communication. Donc voilà, après l'origine, bon, c'est un instrument assez rustique, on va dire.
Là, on a joué sur... pour le décrire, parce que pour nos auditeurs qui voilà pourraient essayer de s'imaginer la forme de cet instrument, si on veut le décrire alors un petit peu.
Le décrire, alors peut-être on va les entendre dans... on va l'entendre peut-être dans l'audio, c'est entendre des paniers. Des paniers qui... c'est des paniers en châtaignier.
Ça repose sur des paniers.
Voilà, donc avec une planche posée dessus.
C'est ça, il y a des petits coussins pour faire un petit peu l'isolant.
C'est ça, on peut imaginer qu'avant on mettait plutôt du maïs séché.
D'accord.
Par exemple, et pour que la planche puisse vibrer.
Ouais. Ça veut dire que c'est un instrument qu'on trouvait dans les
caseries, dans les fermes.
C'est ça, dans les fermes.
Voilà, sur les deux, on va dire dans les années 60, c'est là qu'il y a eu le renouveau de la Chalaparta, on a pu le réentendre sur scène, dans la rue, dans les événements, on va dire, avec les frères Arte. Et comment ils...
Là, les frères Arte, c'est un petit peu ceux qui ont remis au goût du jour, si je peux dire ainsi, ou sauvegardé peut-être une pratique.
Voilà, dans les années 60, avec le mouvement culturel, un renouveau de la culture au Pays Basque, avec un groupe qui s'appelait Zdoka Mailu. Donc, la Chalaparta a été redécouverte par les frères Arte à ce moment-là. Et disons qu'il y avait des... C'est des vues... Enfin, je sais pas comment le dire. Je me reprends. À cette époque-là, donc, ça se jouait, on va dire, dans des caseries, dans des fermes.
Oui.
Entre autres, où on pressait les pommes pour fabriquer le cidre, entre autres. Pour ça, il y a plein qui vous diront l'origine de la Chalaparta, c'est le cidre et le pressage des pommes.
D'accord.
Alors, ce qui est vrai, c'est que bon, on l'a récupéré dans ce milieu-là.
C'est ça.
Ça se jouait encore là. Alors, donc il y avait les frères Soaznabar et les frères Goikoetxea qui sont les plus cités, les plus connus. Ouais. On dit que c'était les derniers à jouer Chalaparta, mais bon, on sait qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs. Et frères Arte, donc du coup, ils sont allés voir les frères Soaznabar, ils leur ont demandé de reprendre Chalaparta. Donc voilà, ça a commencé à l'époque. Arte qui était un très grand poète, qui est décédé il y a 2 ans là.
D'accord.
Et donc voilà, ça c'était l'origine, on va dire, du comment la Chalaparta a été réintroduite.
C'est ça. Et ça veut dire qu'elle était présente, comme cet instrument était présent dans toute la... dans toute la région du Pays Basque.
Voilà,
c'était vraiment quelque chose de courant.
Alors ça restait quand même un truc mystérieux, un peu caché,
très caché,
parce qu'en plus ça elle a été un peu interdite pendant le franquisme, comme le basque. Donc tout ça,
ça faisait partie des choses interdites, donc qui se passaient en dehors et qu'on mettait dans les réunions un peu plus souterraines, entre guillemets, pour maintenir quand même une tradition.
Exactement. Et après, on sait que par exemple au Pays Basque Nord, ça a été joué. Il y avait des pressoirs à cidre, tout ça. Bon, aussi, il y avait des outils qu'on appelait les massacres pour écraser les pommes. On en a retrouvé, donc bon.
C'est ce que je veux dire, du coup, ces bâtons avec lesquels vous frappez viennent peut-être aussi de ces pratiques, finalement,
qui
ont été réutilisées au travers de cet instrument.
Voilà. Certains disent, la technique du pilon, on écrase les pommes d'abord avant de les presser.
D'accord.
Donc, on dit, bon, ça peut imiter le pressage des pommes.
Ça,
c'est une des théories. Bon, ça sort de ce milieu, donc des rimes du travail. Ça, c'est des années 60, les frères Artes, donc à Mailou. C'est les frères Artes, du coup, qui ont commencé à rajouter des planches. Donc, ça, c'est la version traditionnelle, une seule planche.
D'accord.
Donc, Après, voilà, ça c'est l'origine du...
Est-ce que ça veut dire aussi que c'était un instrument, même si on disait que c'était une pratique qui était un petit peu plus cachée, due à des raisons politiques à un moment donné, mais culturellement, est-ce que c'était quelque chose qu'on jouait dehors, qu'on jouait à l'intérieur c'était... Parce qu'on sent que c'est quand même tellement un instrument très sonore, en même temps confidentiel, quand on l'entend c'est jouer, on peut être tout à fait à côté, mais on peut entendre aussi que c'est quelque chose qui avait toute sa place à l'extérieur, voilà. Par exemple.
Mais alors... Alors les Goikoetxea par exemple, bon c'était interdit mais après ils s'enfermaient tout seuls les deux après une journée de travail et puis tout seuls ils jouaient.
Tout seuls ils jouaient.
Dire c'est il y a quand même un truc assez intime.
C'est ça.
Pourquoi ils jouaient on sait pas mais en tout cas ils jouaient et eux-mêmes disent bon mon grand-père jouait Tchalaparté, il disait que son grand-père jouait donc c'est à ça. Partir de là fait, ils savent pas ils disent que c'est un vieux truc.
Certainement.
Donc ils jouent mais ils savent pas exactement ce qu'ils jouent mais en tout cas ils jouent.
C'est ça.
Alors et puis ça et ça survécu dans ce milieu là.
Ouais.
Ça c'est donc Goikoetxea qui disait ça est un pour
et vous disiez oui parce que ça c'est une des versions de se dire que ça vient avec le cidre toute cette culture qui était autour mais que c'était peut-être pas forcément que cette raison là
ben, disons que ça a été utilisé dans ce milieu là mais ça on peut pas en déduire que c'est l'origine exacte de la Tchalaparta elle a été utilisée pour faire du cidre parce que alors, ça a été utilisé pour envoyer des messages aux voisins d'à côté par exemple ils avaient des priorités voisins pour s'entraider, pour s'il y a le feu. Donc comme les clochers de l'église aussi, ça a été un peu utilisé pour envoyer des messages. Mais est-ce que ça se jouait à deux ou tout seul, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, elle est là, quoi.
C'est ça. Donc, ça peut nous faire penser d'ailleurs, si on prend un tout autre pays, une autre culture, la culture africaine, avec tous ces tambours, ces planches, ces modes de jeu aussi qu'on va retrouver dans certaines cultures traditionnelles africaines aussi, où on utilise le bois, les tambours frappés, qui sont aussi des tambours de messages, qui avaient des significations particulières, et qu'on jouait à certains moments, et pas à d'autres.
Mais c'est ça, mais alors, après, à quel niveau voilà. On l'utilisait, on ne sait pas, mais... C'est ça. En tout cas, ça a été utilisé pour envoyer des messages. Après, pour en revenir après, comment ça se passait, on ne sait pas. Il y avait des codes, comme disait, pour dire, par exemple, il y avait le bétail qui passait par la place du village. Il y avait certains codes. On pouvait avertir, mais le jeu en lui-même, de jouer à deux, la magie qu'il y a dans Tchalaparta, ça, on ne sait pas. Ça,
C'est beau en même temps qu'il y a ce mystère, finalement.
Mais en fait, c'est ça qui attire un peu tout le monde, que ce soit les musiciens, les musicologues, ou même les gens, ou les non-musiciens. En fait, il y a quelque chose de mystérieux. Alors, c'est du bois, des bâtons, une vibration. Mais
Et là, peut-être aussi, il y a la simplicité de l'instrument, finalement. Mais on fait aussi, en vous entendant l'un et l'autre tout à l'heure, montrer toute la dextérité aussi, mais principalement le rapport au son. Parce qu'effectivement, on n'a qu'un... On n'a qu'un élément qui est cette poutre posée sur ses paniers, avec ces petits isolants qui sont là pour lui permettre de sonner. Mais on voit bien que c'est un rapport au son aussi, à la manière dont comment on la frappe, la qualité de la frappe, et que c'est vraiment tout un travail de culture d'écoute aussi qui est là en jeu. Et finalement, il y a une relation très profonde qui s'installe avec le son.
Alors là, un mot qui est beaucoup utilisé à Tchalaparta et qui est même le bas, c'est le mot équilibre, Oreka. Et c'est là tout le rapport. Donc il y a un équilibre entre deux personnes.
C'est
donc
ça.
Le son, par le son, on va chercher un équilibre, par la frappe, l'écoute de l'autre, sur le moment. C'est pour ça que c'est un instrument improvisé. Et on va essayer de jouer sur tous les équilibres, que ce soit les volumes, les écarts des coups.
On a entendu aussi tout à l'heure, vous alliez aux extrêmes, et donc de chercher dans les qualités des aigus, alors qu'on est moins sur le nœud de résonance. Et on sent qu'il y a tout un rapport très subtil aussi qui s'installe.
Ouais, on impose un rythme, par exemple, même avec un tempo particulier. Et pour imaginer, on peut le voir comme une marée. Il y a une marée, il y a le grand rythme de l'océan, et après au milieu, il y a les vagues. Disons qu'on ne va pas suivre un tempo comme un musicien forcément, mais le tempo, ça sera nous deux en même temps.
C'est ça.
Mais chercher une régularité, ça peut bouger dans la vitesse, mais c'est nous qui sommes la marée. Et après, il peut y avoir des petits déséquilibres, des accélérations, on peut voir ça comme des vagues, mais dans une marée qui est
un grand continuum, finalement.
Voilà, qui va bouger, quoi. C'est pas forcément...
C'est vraiment l'histoire d'une rencontre, finalement, entre les deux joueurs. Il y a vraiment deux personnalités, deux singularités qui se rencontrent, et c'est l'accordage finalement qui se retraduit finalement, les modalités de cet accordage, qui se retraduit au fur et à mesure de la musique qui se décline, qui s'invente, qui bouge. Et j'aime beaucoup cette métaphore de la mer, finalement. Elle me semble aussi très parlante par rapport à ce qui se passe, qui est en jeu.
Mais j'aime bien ça, c'était une joueuse de Sanken, s'appelle, c'est d'Okinawa. Elle m'a donné cette image quand je lui ai raconté comment on jouait Chalaparta.
C'est ça.
Il y avait, par exemple, alors là on est deux joueurs, il faut... Traditionnellement, il y en a un, il se nomme le Chakuna, c'est vraiment une onomatopée du coup de base, qui est le Chakuna. On l'appelle le Chakuna, qui est la base, il va faire Chakuna, ça sera la base. Et puis, entre mes Chakuna, le Irena, on peut traduire ça par le boiteux par exemple, il va jouer autour du Chakuna. Alors, moi je vais pas bouger, moi je... la marée, lui la marée, puis c'est lui qui va créer des petites ondulations, des provocations. Il va jouer sur le rythme, il va déséquilibrer pour qu'on retrouve un équilibre. Moi je vais le suivre ou pas. Donc c'est un peu comment dire, c'est une improvisation toujours. À chaque fois on improvise, chaque chakoun d'un chakoun à l'autre, on va essayer de suivre, et puis on va créer des je sais pas comment.
Comment vous semblez.
Je suis un peu perdu là sur.
Ça peut changer aussi de la place. Après, on peut changer de place aussi à un moment donné aussi.
Oui, alors après tout est possible. C'est-à-dire que je suis le Chakoun, il peut passer Chakoun à un moment.
C'est ça.
Ah oui, ça veut dire.
Il y a les rôles de champ sont interchangeables.
Voilà. Et puis on peut décider d'aller dans des endroits ou pas.
C'est ça.
Alors on va proposer ou pas. Et c'est là en fait qui va faire la personnalité d'un couple de Chalaparta.
Oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire, du coup, il y a à la fois proposition, je te suis pas, je vais avec toi, ou j'amène quelque chose de contrepoint en opposition qui amène ailleurs.
Voilà. À force d'improviser, en fait, c'est ça la magie, c'est dans l'improvisation, à chaque fois qu'on va jouer, on va improviser.
C'est ça.
Et chaque improvisation, forcément, c'est différent, il va se passer des choses différentes. Et puis, quand on va tomber, on va dire tomber, si on arrive à se perdre, ou en tout cas, à force de se prendre dans le même endroit, ça va créer en fait une couleur, un danger qu'on connaîtra, et on saura se relever par exemple.
C'est ça.
Mais le fait d'improviser tout le temps, ça t'amène à découvrir plein de chemins différents du coup.
Alors est-ce que ça veut dire que la Chalaparta, c'est avant tout un espace d'improvisation?
Ah oui.
Avant tout, c'est ça.
C'est ça. C'est... Mais Arte, il le disait par exemple, on en a parlé un peu avant, dans l'œuvre de Luis de Pablo.
De Luis de Pablo, oui.
Olivier Jean-Claude.
Alors peut-être on peut reparler deux minutes de cette œuvre de Luis de Pablo que vous citiez tout à l'heure. Luis de Pablo, un compositeur extrêmement important, dans le champ de la création musicale et de la musique contemporaine, mais qui s'intéressait quand même très largement à beaucoup de choses. Beaucoup de choses venaient nourrir son espace de création, et donc la Chalaparta n'était pas inconnue pour lui, et il y a une œuvre qui existe. Vous l'aviez peut-être entendue, ou à un moment ou à un autre?
C'est-à-dire que on était très amis, je dis on était parce qu'ils sont décédés avec les frères Arce. Moi j'ai appris la Chalaparta en partie chez eux. Et donc c'est eux qui nous ont parlé à la première fois. Et surtout ce rapport, moi ce qui me questionnait, c'était comme ils ont joué dans cette œuvre-là, qu'ils l'ont enregistré à Bonn, mais qu'ensuite ils l'ont rejoué à Madrid, ma question c'était de savoir si, vu que la Chalaparta souvent devrait être improvisé, savoir s'ils avaient joué la même chose. Et donc la réponse était très claire, c'est non.
C'est non. Là c'était un discours écrit, quoi.
Alors ils ont joué dans l'esprit du poème, Suresco Olerquia, c'est le poème de la forêt autour du bois. Et ils ont joué dans cet esprit-là, parce que quand même l'opéra était écrit, la musique autour était écrite, mais pour eux, pour la Chalaparta, ils avaient demandé à De Pablo qu'ils ne savaient pas, eux, et la musique et tout ça. Donc De Pablo, qui était intelligent, qui était basque, qui était de Bilbao, et qui connaissait la Chalaparta, avait proposé aux frères Arce de dire, vous allez jouer de telle minute à telle minute. Et dans cet espace, évidemment, ils allaient jouer ce qu'ils souhaitaient.
C'est ça.
Et Donc ça confirmait ce que je pensais au niveau de la liberté que procure cet instrument, c'est que à Bonn ils ont joué, certes, mais à Madrid ils ont joué aussi entre ces fameuses minutes, quelque chose dans l'esprit pas très éloigné, mais pas écrit.
C'est ça.
Pas écrit.
Et ça, c'était intéressant que Luis de Pablo, en tout cas, vous avez raison, en soulignant son intelligence aussi par rapport à ça, n'enferme pas dans une volonté d'écriture trop savante, entre guillemets, l'espace à l'oralité et l'improvisation, dans une œuvre qui associait, je crois, aussi des chœurs amateurs.
Ah oui, oui, pas amateurs, mais professionnels, des chœurs, de la percussion contemporaine, c'est un très beau disque, qu'on peut trouver toujours encore aujourd'hui.
Et vous pouvez nous rappeler le nom du disque?
Alors, c'est Souresco. Alors, Souresco, Z-U-R-E-Z-K-O, et Olerkia, O-L-E-R-K-I-A. Mais éventuellement, je vous enverrai les références. Et il y a un truc intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a des orchestres contemporains qui introduisent à Chalaparta dans leur composition, récemment un compositeur italien. Et alors, eux, différemment, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'instrument, ou peut-être parce qu'ils l'utilisent avec des gens qui sont devenus des musiciens, eux, c'est écrit.
C'est écrit.
C'est entièrement écrit. Donc, s'ils le jouent quatre fois, ils joueront quatre fois la même chose. Et le même Souresco Olerkia a été repris peut-être 10 ans après par un jeune Chalapartari, à qui on a demandé de... Et bon, il a écrit.
Et ça, écrit. Ça vous semble aller à contre-sens?
Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est une hérésie, mais
voilà, c'est pour ça
je ne vais pas me faire que des amis, mais enfin, je le dis quand même.
C'est ça. Comme vous le disiez, ça reste un instrument d'oralité, et ça reste un instrument où on improvise, et un endroit où, justement, on s'aventure, et non pas dans quelque chose, on est dans absolument quelque chose de déterminé à l'avance.
Voilà, bon, après, ça peut devenir ça, mais je trouve que la Chalaparta y perd beaucoup.
C'est ça.
Et surtout, c'est un des rares instruments que je connaisse, en tout cas, qui soit libre, quoi, libre d'accès. Qui peut se jouer par tout le monde.
C'est ça.
Où il n'y a pas vraiment de fautes ou de règles à imposer. Le tout, c'est de trouver un dialogue ou une harmonie entre deux personnes, quelles qu'elles soient.
Ça, c'est fondamental.
Ça fonctionne beaucoup, d'ailleurs, quand on va dans les écoles avec les enfants en difficulté. Parce que, bon, l'apprentissage est automatique. Hein. Vous pourriez jouer à l'instant même. Et ce serait bien. Vous voyez ?
Oui, bien sûr.
Voilà, moi, je crois que j'ai répondu largement à votre question.
Oui, merci. Là aussi, on sent bien que, et vous le dépeignez très bien, Chomi, tout à l'heure, c'est vraiment un espace de liberté, cet instrument. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder et qu'il faut préserver, finalement.
Ben, c'est ça. Donc, pour conclure ce que j'allais dire, c'est d'un concert à l'autre, sous le scolaire qu'il y a, ils n'ont pas joué la même chose parce qu'il s'est passé un mois ou deux mois entre les concerts. Ils ont peut-être rencontré des gens, il s'est peut-être arrivé un drame dans leur vie. Et donc forcément, le concert d'après, on ne va pas jouer la même chose.
Exactement.
Donc tous les jours, d'un jeu à l'autre, on grandit ou pas, ou on régresse dans la vie, mais ça se sent dans le jeu. Et c'est le résultat direct dans le jeu. On voit comment un couple évolue, s'ils jouent,
ils ont l'habitude d'évoluer ensemble, si ça fonctionne.
S'ils ont voyagé, s'ils sont restés chez eux à rien faire, et puis ça se sent tout ça dans le jeu.
Ça.
Et ça, c'est vraiment le jeu direct. On peut pas...
Et comme on soulevait juste à l'instant, ça donne une accessibilité assez rapide aussi à cet instrument pour quiconque finalement. Même si, bien sûr, on entend bien, quand vous entendez jouer tout à l'heure, il y a la pratique, il y a la dextérité, tout ça va venir, mais que sur le principe même de l'instrument, c'est quelque chose qui peut être accessible assez rapidement à tout un chacun.
Mais c'est ça. Alors, c'est pour ça, quand on l'enseigne, avec Jean-Claude beaucoup, et c'est très important, on a tendance souvent, quand on donne la porte aux gens, de jouer assez rapidement, de montrer... les limites de l'instrument, voir qu'est-ce qui est possible. Mais quand les gens ils se prennent une flopée là, de coups forts, ils se disent bon, moi je sais pas jouer.
Oui, c'est ça.
Non, nous à chaque fois on monte l'instrument, on fait juste tchakoun, oui, on fait ça, on montre ça, Chalaparta. Voilà, de lever les bâtons, jouer doucement, un coup, zéro. Montrer la danse, et en fait c'est déjà un jeu. Commence, rien que ça, on sent déjà une tension de savoir où mettre. Déjà, c'est un jeu. Et déjà, quand on leur montre ça, déjà, ça leur suffit. Il y a la vibration, une bonne planche qui sonne, et voilà. C'est pas à peine de jouer vite, de montrer les limites de l'instrument. Ça, il y a des niveaux. Et c'est important de commencer par ça et montrer que c'est hyper accessible. Comme il disait, avec des enfants en difficulté ou des handicapés, ne serait-ce qu'ils participent
tout à fait.
Et qu'ils partagent en direct quelque chose, ils ne sont pas tout seuls en train de suivre. D'autres. Non, là, pour que ça marche, il faut qu'on soit deux.
Et ça veut dire qu'on pourrait imaginer que, quand vous travaillez avec un groupe d'enfants, il y a plusieurs chalapartistes, si je peux dire un peu comme ça, ou en même temps, ou ça va être strictement quand même, comme là vous êtes tous les deux, et ça va être ce stade-là qui va être privilégié.
On peut travailler différemment.
C'est ça hyper, peut être une pratique collective.
C'est très ouvert. C'est très ouvert. On peut soit avoir qu'une chalaparta, on commence souvent.
Avec une seule, j'imagine.
Tout dépend en fait du temps qui nous est imparti. Comme maintenant l'interview, rappelle Jean-Claude, il voulait dire, bon, vous avez combien d'heures devant vous, on peut en parler pas 8 heures. Si on fait en 1 heure, on fera en 1 heure. Et la pratique, c'est pareil. Si on fait en 1 heure et demie, je vais remontrer en 1 heure et demie les bases. Si c'est en 10 cours d'1 heure, on va commencer par déjà pas de panier, pas d'instrument, rien. On va commencer par se présenter, taper dans les mains. Chacun, chanter, on peut resituer au milieu de la langue basque, bien les sûr. Animaux, le potioka, le cheval, quoi. Le galop du cheval qu'on peut représenter.
Oui, parce qu'on reconnaît aussi ça, voilà, ce galop
voilà,
du cheval.
Voilà, c'est très, très imagé. Arte, il utilisait beaucoup le cheval pour quand il parlait de chalaparta.
C'est ça.
Donc ça, il faut les mettre dedans. Donc, après, chacun, chanter, on n'est pas tout seul. Donc on divise la classe en deux, ou tout dépend combien ils sont. S'ils sont très peu, s'ils sont 6, on va mettre 3 chalaparta, et puis chacun son tour va jouer, ou tous ensemble, on va faire chacun. Lever les bâtons, montrer que c'est pas 1, 2, le chacun, c'est juste un coup en fait.
C'est ça.
Et moi, chacun son tour, c'est comme les poumons. Là. Dualité.
Ce qui est très beau aussi, ça me fait penser aussi aux percussionnistes chinois, par exemple, aux japonais, c'est qu'on voit l'implication du corps qui est extrêmement grande.
Ah, oui.
Et il y a une beauté aussi du geste, une chorégraphie du geste. Et on sent, vous parliez de tension tout à l'heure, mais en même temps, on sent toute cette force intérieure qui vous habite et qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de forcé, mais on voit bien qu'il y a une fluidité du mouvement qui s'installe et que le secret aussi, il est dans cette fluidité, aussi dans cet ancrage que la personne va trouver petit à petit, parce qu'elle se trouve elle-même, parce qu'elle se trouve par rapport au son, et puis parce qu'il y a aussi cet appui avec l'autre qui est là à ses côtés. Et c'est vraiment très beau avoir aussi le geste en lui-même qui va être producteur aussi du son.
Je veux pas trop parler en détail de ça, mais je pratique des arts martiaux aussi. Donc le mouvement du Kempokai avec une très bonne école. Donc par le travail de la respiration, les mouvements, la latéralité, le fait de. Quand on joue, comme je disais, c'est 1, 2, on travaille à 2. Donc monter, descendre, il y a une espèce de biomécanisme qui se met en place dans le corps, de lever, descendre, de se rendre compte de
c'est ça.
La force, les intensités, anticiper les coups, comment on respire. Donc c'est très important. Et puis en plus les arts martiaux, là on travaille à deux. Donc c'est toujours se mettre au niveau de l'autre, on n'est pas là pour l'écraser. On est là pour apprendre à l'autre. Donc on est les deux pour apprendre. Que ce soit une ceinture blanche qui vient de commencer et 30 ans d'art martial derrière, et bien les deux vont travailler. Celui qui a 30 ans d'art martial, il va faire attention, il va travailler à son niveau avec. C'est la même chose à Chalaparta. On va être là pour parler et avancer. Et puis dans le mouvement, respiration, frapper, la tenue des bâtons, se rendre compte de l'espace où c'est qu'on joue, l'intensité des coups, tout ça, voilà. C'est très important.
Et donc c'est
ça.
Quelque chose qui va demander petit à petit une grande maîtrise de soi-même, de conscience de qu'est-ce qu'on engage aussi physiquement.
C'est ça.
Et de ses émotions, bien évidemment.
Voilà, et le pouvoir de décision, ça j'ai beaucoup appris, aussi. Qui est hyper important dans les arts martiaux et dans la self-défense. Dans tous les cas, c'est de savoir réagir à n'importe quel moment, prendre une décision.
C'est ça.
Après, faire le bon choix ou pas, c'est autre chose. Mais une fois qu'on a fait le choix, c'est d'y aller.
C'est ça.
Et c'est pareil, là. Ou à Warcon, ou à faire un kata, pareil. Une fois qu'on rentre dans le tatami, on a commencé, jusqu'à la fin du kata et sortir du tatami, on est là. Il n'y a rien d'autre. Là, c'est pareil, on s'engage à un jeu, on va jusqu'à la fin, on est là. On part, c'est pour ça qu'on est dans une bulle, quoi. Pas de public, et après, on est concentré. Alors, tout ça, cette disposition, ça se travaille. Et à Chalaporta, c'est pareil, je trouve, c'est...
Complètement.
Le travail.
Et on voit bien que c'est toute une philosophie qui s'ancre autour de cette pratique.
Donc,
pour vous y ajouter.
Non, c'est parfait. Je voulais juste pour vous montrer que le jeu à deux, ce qui a été fait au début, qui s'appelle le Deya, tout le monde joue à peu près ce morceau, mais personne ne le joue de la même façon. Donc pour vous le démontrer, je vais jouer avec Chomin. Comme ça, vous verrez que. C'est la même phrase,
mais forcément elle est différente.
Un petit peu différente.
Ah, mais volontiers, avec grand plaisir. Voilà. Je vous laisse vous installer. Et effectivement, c'est intéressant d'entendre cette différence. Et que là aussi, c'est une histoire d'accordage, effectivement.
C'est ça. Et puis, pour finir, les arts martiaux, comme vous dites, d'avoir une base acquise d'une technique, on en fait son style, après sa personnalité, à partir d'un chemin. Et c'est pareil à Chalaporta, qu'on est un couple, une fois qu'on a acquis un peu les bases et qu'on joue, on va en faire notre style et notre chemin. Voilà, c'est la même chose.
Alors, on vous écoute l'un et l'autre, alors.
Ok.
Chakun est de l'autre, hein ?
Chakun.
Ni Chakun ?
Ni. Adara,
c'est pas filmé.
Oui, il n'y a pas de souci.
Ah, ça, c'est... Bon, on ne fait pas. On peut même le faire à deux, hein. On peut le chanter sans le jouer.
C'est ça, on entend. D'ailleurs, ce qui me frappait en vous entendant, c'est effectivement l'aspect vocalique. D'ailleurs, on entend aussi tout à fait le chanter, qu'on entend, on pourrait entendre une voix qui est en train de, un duo vocal, qui est... Et effectivement, vous aviez raison de le soulever, c'était tout autre chose. On va pas dire c'est mieux, c'est... Hein, il s'est passé autre chose. Et vous avez inventé, vous êtes allé dans d'autres espaces, vous êtes allé dans d'autres modalités.
Et si on rejoue, on refera autre chose.
C'est ça.
Ouais. Si on rejoue dans 3 minutes, on va rejouer autre chose.
Peut-être si juste... Oui, je vous en prie. Juste au stade où nous en sommes, on n'a pas parlé quand même de... On parle du son et aussi des bâtons qui servent aussi à frapper. Mais quelle est la nature du bois de l'un et de l'autre? Alors, parce qu'il faut quand même un bois qui sonne, quand même, particulièrement.
Le premier, déjà, c'est chercher le son.
C'est ça.
Rechercher du son. C'est comment elle va vibrer. Alors, à l'époque, c'était des bois qu'il y avait devant la ferme, des bois locaux. Alors, ils avaient quand même des... On a beaucoup utilisé, bon, on peut en citer, mais des bois qui sonnent, il y a le, on aimait bien l'acacia,
ouais.
Il y a le noyer, ouais. Le chêne, le frêne, bon, le frêne beaucoup utilisé pour les bâtons.
Le frêne pour les bâtons.
Ouais. Mmh. Le cerisier, peuplier, hêtre.
Oui, donc une grande catégorie de, voilà, de bois. Exactement. Quand même.
Et après, on a des petites planches, c'est plutôt des bois africains qui sont très denses.
C'est ça.
Les Iroko, ouais. C'était quoi le Bobinga aussi qu'on avait
et celui-ci,
je ne connais pas bien le...
Par exemple, celui que vous avez utilisé jusqu'à présent, ça serait quelle nature de bois?
Alors celui-là, bon, à vrai dire, je n'aime pas trop. C'est juste la seule grande planche qu'on avait ici, mais c'est du Padou. Pas que du Padou, que du... Ça me, du Sapelli. Voilà, c'est du Sapelli.
Mais vous n'en êtes pas complètement satisfait?
Non, on a des planches qui sonnent beaucoup mieux. Bon, là, on va installer après la petite Chalaparta. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à partir des années 60-70, les frères Arce avaient rajouté des planches à une.
D'accord.
Ils jouaient sur 4 planches en général.
D'accord.
Mais, et avec les années, à partir des années 80-90, on a un peu... diminuer la taille des planches pour qu'elles puissent rentrer dans les voitures, c'est plus pratique.
Et oui, il y a aussi le transport.
Et puis voilà, puis donc on va jouer sur des planches là, qui sont châtaignier, ça c'est le, du coup c'est le nyango ou le... Ah non, c'est le cèdre celui-là, je suis bête. Ça c'est le cèdre.
Ah, ça c'est du cèdre.
C'est du cèdre, voilà. Et donc là on va rajouter des planches et vous allez voir que le son il est un peu plus... C'est un peu plus aigu.
C'est ça, oui. En fonction de l'essence du bois, on va avoir un son aussi qui va être forcément différent. Et peut-être, avant d'entendre justement déjà cette nouvelle dimension, quelle est la place finalement aujourd'hui de cet instrument, je dirais, dans l'espace ou dans le paysage musical ici du Pays Basque? Qu'est-ce que vous, comment vous situeriez aujourd'hui la place de la Chalaparta?
Elle a... Bon. En général, la chalaparta, elle est beaucoup utilisée dans les cérémonies ou comme on a dit, on a joué le deya avant. Le deya, c'est dire l'appel. Donc, c'est souvent presque comme un appel à rassembler les gens on donne le départ à quelque chose, ou on fera un hommage à quelqu'un. Donc c'est souvent fait un petit jeu de 5 minutes ou c'est beaucoup un appel, c'est souvent utilisé comme un appel. Et la place après, à partir des années 90-2000, commence à se mélanger à la musique. Donc là on sort, pour ça il y a une tradition, mais il y a une génération à partir des années 90 où avec beaucoup avec le musicien Juan-Marie Beltrán, le musicologue, qui a commencé à introduire Chalaparta dans la musique. Donc à beaucoup à il a quadrillé un peu à Chalaparta dans la musique. Donc on a fait comme un instrument d'accompagnement, de percussion, à tout en lui laissant un peu le côté un peu authentique, mystique du bois, que ça se joue à deux. Donc à partir de là, il y a beaucoup de projets et de rencontres qui sont créés. Donc on l'a écrit.
Et ça vous semble comment vous... Vous percevez ça, parce que par rapport au propos tout à l'heure,
alors, ouais,
pour vous, ce serait un peu une hérésie, finalement, de la pousser jusque-là.
Oui,
mais
c'est
garder son côté d'improvisation et ne pas l'enfermer dans un style ou dans une manière de... Ou...
Alors, le dilemme, il était là. Moi, je suis musicien, voilà.
Et, mais c'est intéressant d'avoir votre
avis, justement. Voilà, mon avis, c'est que... Donc, je m'étais un peu écarté dans Chalaparta.
Ouais.
J'étais intermittent, je suis devenu intermittent du spectacle. Et je suis revenu à Chalaparta et là je joue justement cette version musicale qui pour moi, bon, c'est pas du tout ce que je ressens
ce à Chalaparta. Ce que vous ressentez, ouais, c'est ça.
Mais étant donné que c'est mon gagne-pain, il y a beaucoup de demandes dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Je vais pas cacher qu'il y a des choses très intéressantes. Mmh. Bah, par exemple, j'ai un projet qui s'appelle Bachabi, on joue avec des musiciens classiques.
Ouais.
Et du coup, il est plus utilisé comme un lithophone.
C'est ça.
Et là, on joue sur Chalaparta en pierre. Donc voilà, on est à 22 lames, sur 2 octaves.
Donc on a vraiment le travail d'un clavier comme un autre,
voilà,
type de clavier.
C'est-à-dire que quelqu'un pourrait jouer tout seul.
C'est ça.
À la limite, on pourrait. Mais c'est juste que là, c'est un côté plus visuel, c'est jouer à deux. Voilà, mais bon, c'est pas... C'est... Pour moi, il se passe beaucoup plus de choses quand on a joué avant.
C'est ça.
Là, que là, on sait à l'avance qu'est-ce qu'on va jouer. Et où c'est qu'on va faire la faute ou pas.
Est-ce que ça veut dire donc, aussi, puisqu'on est dans le champ de l'improvisation, pour garder cet aspect-là, il est arrivé que des improvisateurs viennent à vous, ou viennent vers cet instrument, et se disent, tiens, c'est aussi, de par l'esprit, que vous avez fort bien dépeint tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous intéresse, parce que notre cheminement, c'est l'improvisation et la rencontre avec les uns les autres. Est-ce que, donc, il arrive fréquemment que des improvisateurs viennent à vous?
Ah oui, bah ben, de tous les milieux,
c'est ça.
De tous les styles, que ce soit sérieux ou pas, ou des paroles en l'air, ou été, on s'appelle,
oui.
tous les jours, Chalaparta, il faut qu'on fasse un truc, oh, je veux de la Chalaparta là, oh, je fais une vidéo, je veux de la Chalaparta, oh, j'ai un projet de danse, je veux de la Chalaparta... Il y avait une qui doit me rappeler, elle a fait des peintures sur des friches, en aquarelle, oui. Je crois, elle voulait la Chalaparta aussi. Enfin, il y a deux, ou comme vous maintenant, pour la radio. Hein.
C'est ça, oui, la preuve que ça suscite un intérêt.
Voilà, c'est
en,
très...
En tout cas, puis ça mérite justement de... Parce que je trouve que cet instrument-là permet de revisiter qu'est-ce que c'est que la musique, quels sont les fondamentaux de la musique, justement. Et je trouve intéressant le fait que... vous évoquez effectivement entre le gagne-pain, mais je le place à un autre endroit, mais et on entend bien cette préoccupation, elle est tout à fait légitime, mais le dilemme que ça pose entre de tirer une pratique instrumentale et l'emmener dans un secteur, sans dire que c'est une déviance, je n'irai pas jusque-là, mais qui quelque part vous emmène à contre-cœur à un autre endroit qui n'est pas l'endroit essentiel de cet instrument et l'expression de cet instrument.
C'est ça, alors bon, on est deux, donc... Il faut savoir jouer à deux, après voilà, c'est toujours pareil, il faut pas que je me plaigne non plus, c'est une question de facilité, j'ai choisi, c'est facile, je peux jouer ce style de musique, moi après d'imposer...
Ça fait connaître aussi un peu finalement, parce que j'imagine que d'autres ne la connaissaient pas forcément, et ne savaient pas aussi toute la richesse finalement de cet instrument.
Ah oui, mais ça c'est tous les jours il y aura des nouveaux projets, des gens qui vont s'intéresser.
Ça, c'est formidable, voilà. Ça par contre.
Ah oui, mais c'est... C'est magnifique, mais bon, après, voilà, c'est à moi d'essayer. Ben là, je suis content de puisse avoir cette interview avec Jean-Claude et moi. Mais bon, ce que je présente aujourd'hui, si vous voyez mes vidéos, c'est pas exactement ce qu'on vous a
raconté.
Parce que là, cette version, une planche, quasiment personne ne la joue.
C'est vrai?
Là, c'est vraiment pour vous montrer l'instrument. Moi, dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, je vais...
Vous la jouez comme ça?
Voilà. Pour que j'ai... Parce qu'il y a plein, plein de gens pensent qu'ils pensent que c'est pas Chalaparta.
C'est vrai?
Ah, mais non, c'est avec 4 planches, c'est sur...
Ah oui.
Avec des plus petits bâtons.
D'accord.
Non.
Donc il y a un espèce de... C'est juste si je dis... C'est peut-être pas juste, hein, mais pour... Continuer ce débat que je trouve intéressant aussi. Est-ce que du coup il y a un effet mode aussi qui fait que du coup on la transgresse un petit peu cette pratique?
Oui, alors il y a beaucoup de modes, Chalaparta, c'est la visu. Par exemple, ça a été très utilisé à l'époque dans le milieu basque.
Ouais.
Un peu, ça avait un aspect un peu sauvage, mais c'est très visu. Les gens jouaient plus pour la cause que pour l'instrument en lui-même, dans son côté philosophique.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'était jouer pour taper et puis c'est. Non, c'est un côté très symbolique, mystique, chacun va l'utiliser de son côté. Il y a le nom d'une radio à Paris qui s'appelle Chalaparta, il y a une édition de livre qui s'appelle Chalaparta. C'est très...
Vous vouliez ajouter quelque chose, hein, je crois.
Ouais, c'est pour compléter par rapport aux musiques contemporaines.
Oui.
Parce que Bon, moi, je joue pratiquement plus maintenant, mais à l'époque...
Oh,
je...
C'était fort bien tout à l'heure, bravo.
Merci, vous êtes gentil, mais vous voyez ça depuis Bourg-en-Bresse, je ne sais pas. C'est...
Je ne pratique pas l'instrument.
Voilà. Non, mais pour répondre à la question du contact avec la musique contemporaine, pour vous citer deux, trois exemples, on a joué à Monaco pour le Printemps des Arts, qui est un gros festival, et on était entouré pratiquement de musiciens contemporains autour de nous, donc ils nous avaient mis dans cette programmation. Et le président de ce festival est un connaisseur. Il se trouve qu'il a une maison à Baïgorry et qu'il cherchait des joueurs de chalaparta. Et il cherchait des joueurs de chalaparta traditionnels. Il ne voulait pas la chalaparta moderne. Et suite à ça, par exemple, on a été invité par l'ensemble 2E2M de Paris, où on a joué sur une scène avec eux, enregistré par France Musique. Après ça, on a été invité par les percus de Strasbourg pour leur 50e anniversaire.
Donc avec Jean-Paul Bernard et toute l'équipe.
Voilà, pour nous, c'était comme une consécration. Quand il m'avait appelé, j'avais dit, écoutez, nous, on peut venir à genoux jusqu'à Strasbourg, parce que...
Jean-Paul étant aussi quelqu'un que je connais beaucoup aussi.
En tout cas, nous, on a été très bien reçus, contents d'être invités. Et alors c'est ça que le paradoxe, c'est que nous on n'est pas des musiciens professionnels, du moins à l'époque on n'était pas du tout, pour Tchomine qui maintenant l'est. Et ce qui était marrant, c'était de voir les percussionnistes, et je me souviens notamment d'une jeune percussionniste qui a un style un peu japonais, et qui nous a encensé formidable. Et alors quand après on les a vus jouer, on s'est dit quand même, bon, il faut qu'on fasse descendre un peu notre ego. Et on a souvent été invités aussi à Bordeaux et Bègle par les vacances percutantes.
Ah oui, mais et je vois.
Voilà, où donc le responsable maintenant a aussi un ensemble vocal contemporain, dont je ne me souviens pas le nom. Et là, c'est pareil, on jouait devant des profs de percus, tout ça. Mmh. Et bon, ils aiment bien tout ce monde curieux, souvent parce que, bon, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ?
C'est bizarre. Finalement.
Non, et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Ça peut paraître curieux, et puis comme on ne fait jamais la même chose, jamais ils comprennent.
C'est ça, c'est ça.
Mais c'est déchiffré.
Mais qu'est-ce que vous avez joué ? Voilà, c'est ça.
Et après, pour finir, presque, parce que j'ai tendance à être long.
Non, c'est passionnant.
Il faut savoir que Steve Reich a écrit un petit peu sur la chalaparta qu'il a rencontré en 72 à Pampelune, où il y avait des rencontres de musique contemporaine très avant-gardistes pour le pays et pour l'époque, quoi. Parce que, bon, je veux pas... enfoncer le clou. Mais donc Steve Reich a écrit, il dit même qu'il s'est peut-être inspiré pour une de ses œuvres.
Est-ce que ça serait celle qui est à 5 justement clad?
Ouais,
je pense à celle-ci.
Voilà, je crois que c'est celle-là. Ouais. Mais comme j'ai pas le document là sous les yeux, je suis pas sûr.
Je vérifierai parce que ce serait intéressant.
Mais
j'ai la partition et j'ai l'enregistrement.
Je peux vous envoyer le document.
Ouais, volontiers, oui.
Et ce même jour et à ce même festival, il y avait Steve Reich et il y avait surtout John Cage qui a beaucoup aimé je connais pas le personnage, mais il a dit que les deux choses intéressantes à ce festival, c'était lui et le jeu des petits chevaux sur les planches en bois, quoi. Et c'était les frères Artier qui jouaient. Ouais. Et Steve Reich, il a même dîné avec les frères Arcet pour avoir un peu plus d'approfondissement sur cette pratique. Donc vous voyez, bon, tout ça, c'est pour dire que tout ce qui tourne autour de la musique contemporaine, de Pablo, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Escudero au Pays Basque qui a aussi fait une composition où il y a de la chalaparta. Ça a vraiment toujours intéressé le monde de la musique contemporaine et de la création et de l'improvisation.
Quoi. Mais c'est pas étonnant quand on l'entend, ben, ça ne peut que susciter l'intérêt, parce qu'il y a ce côté magique qui est là, et puis le son aussi, le rapport au son, le rapport au geste. Voilà. Et ça ne m'étonne pas que Keiko Nakumara, elle ait réagi comme ça au niveau des personnes de Strasbourg.
Elle doit être sympathique, je pense.
Mais elle sait...
En fait, elle était enthousiaste.
Mais ça ne m'étonne pas.
Alors qu'on n'a pas joué de façon fantastique.
Mais bon, ça devait aussi rappeler plein d'éléments qui, je pense, que pour eux sont fondamentaux.
Ouais. Ouais, et même par rapport à son origine, peut-être.
Tout à fait.
Parce qu'il y a des choses assez proches de la musique japonaise.
Complètement.
Il y a même l'instrument qui parfois ressemble à ça, quoi.
Complètement.
Bon, voilà.
Donc la Chalaparta, hyper ouverte, hyper, sollicitée, parce que, je pense, par rapport à la philosophie que vous évoquiez tout à l'heure, et peut-être, je viendrai vers vous, comment à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que... Je me lance aussi dans cette rencontre avec la Chalaparta.
Par amitié, je pense, déjà, au départ. Chumin, c'est un très bon ami, donc du coup, bon, ça a été... Et par curiosité aussi.
Curiosité. Par curiosité.
Ouais.
Vous aviez déjà entendu cet instrument?
Oui, après, non,
j'imagine, beaucoup plus jeune.
Quelque chose qui est ancré quand même au Pays Basque.
Oui, c'est ça.
Et après, sortir aussi cette opposition... C'est un instrument qui permet de sortir aussi cette opposition de musicien... un peu formaté aussi.
Ouais.
Donc ça, c'est intéressant aussi,
mais bien
de faire
sûr.
Ces allers-retours. Et de comprendre d'où on vient aussi, quand même, à un certain moment donné.
C'est ça. C'est tous ces éléments-là qui vous ont dit, tiens, là, il faut que je creuse
dans cette pratique, de pouvoir faire des ponts, de pouvoir aussi assumer cette opposition de musicien aussi formaté, parce qu'elle est intéressante.
Bien sûr.
Aussi de revenir aussi à, un peu à ce côté peut-être sauvage, positif.
C'est et puis peut-être que ça vous a amené à aller peut-être vers des horizons musicaux qui aussi ont... On évoquait John Cage tout à l'heure, Steve Reich, voire d'autres musiciens, d'autres manières, d'autres esthétiques. Mais peut-être que du coup, de chercher des ponts aussi, de se nourrir, ou de voir qu'il y a des passerelles possibles.
Ouais, et assumer aussi ce côté d'où l'on vient, en fait.
C'est ça.
D'où ça, clairement, d'où le sang naît, d'où ça, toutes ces questions-là.
Ça semble... je dirais quelque chose de fondamental dans la Chalaparta.
Ouais.
Et c'est ce qui fait que je pense qu'elle intéresse, justement, parce qu'elle a un profond ancrage.
Ouais, et que ça résonne pour beaucoup de musiciens, comme les percus de Strasbourg, cette percussionniste japonaise chez qui ça doit résonner, en tout cas.
Mais complètement. Ouais. Et là, il n'y a même pas de filtre, c'est-à-dire ça parle immédiatement, je pense, et chez de nombreux percussionnistes ou musiciens, tout de suite, il y a quelque chose, dès qu'on entend la Chalaparta, il y a quelque chose qui vous parle, quelque part.
Ouais. En tout cas, c'est une question très vibratoire, de toute façon. Enfin, la musique, c'est quand même une vibration, mais quand ça rentre en vibration corporellement aussi, je pense que, et que ça, en tout cas, ça résonne comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas de filtre, comme tu dis, et qu'on puisse exprimer, en tout cas, ce ressenti et cette émotion-là en direct, quoi. C'est spontané.
Résonance sur Radio B, la Chalaparta, ou le musicien au cœur de l'intime sonore du monde. C'est sur ces propos de Vicente Echegaray que prend fin ce premier volet consacré à la Chalaparta. Donc un grand merci à ces trois musiciens pour nous avoir guidés. Donc Chomin Ders de Lopetegui, Jean-Claude Henrique et Vicente Echegaray. Voilà, pour nous avoir accompagnés dans cette découverte sonore, musicale et humaine. Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Écoutez, podcastez la présente émission sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Nous serons heureux également de découvrir vos commentaires et avis sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. Portez-vous bien et à très bientôt sur Radio B.